bienvenue dans les rencontres de Port d'Albret FM. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Maud Léonard, céramiste à Vieux-Boucau. Suivez-moi et venez à mes côtés à la rencontre de Maud.
Les rencontres de Port d'Albret FM avec Chantal.
PortdAlbretFM.fr.
Maud, bonjour. Vous êtes artiste et ou artisane, on verra, dans le domaine de la création de céramique, autour et en modelage. Et votre atelier est à Vieux-Boucau, il s'appelle Sur la Dune, poterie salée. C'est dire que l'univers salé des Landes vous inspire. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec vous, avec votre parcours, votre univers et vos créations. Alors tout d'abord, vous n'avez pas toujours été artisane, artiste. Vous avez un parcours très dense qui nourrit votre créativité et votre activité d'aujourd'hui. Alors on va commencer par cheminer avec vous sur votre vie d'avant la céramique pour mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours un petit peu atypique et très dense ?
Bonjour Chantal, merci de vous intéresser à mon activité. L'atelier sur la dune a été créé à Vieux-Boucau il y a 2 ans, donc c'est un atelier de céramique artisanale qui illustre effectivement tout le parcours. Je dirais que c'est un concentré de tout le parcours que j'ai eu précédemment. Voilà, j'ai 44 ans aujourd'hui et je suis dans les métiers d'art depuis que j'ai une vingtaine d'années. Donc je suis née à La Rochelle, à côté de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage. J'ai eu la chance de grandir au bord de la mer, d'être bercée par le bruit des vagues pendant toute mon enfance. Et je suis ensuite montée à Paris pour faire mes études. Donc j'ai commencé par des études de lettres classiques. Latin, grec, voilà, littérature française, des choses très intellectuelles mais qui m'ont beaucoup nourrie. Et à Paris, j'ai découvert l'école Boulle. Donc j'étais déjà très manuelle à l'époque et j'ai choisi de quitter les études intellectuelles pour prendre le pas de l'artisanat d'art. J'avais à l'époque 20 ans. Donc je suis rentrée à l'école Boulle en section d'ébénisterie d'art et ça a été une révélation pour moi. Donc j'ai décidé de ne plus jamais quitter les métiers d'art. J'ai suivi le cursus en ébénisterie, j'ai ensuite travaillé en atelier, j'ai travaillé dans le cinéma, dans les ateliers de décoration, menuiserie. J'ai ensuite eu l'opportunité de monter une boutique de décoration et de meubles, d'ameublement. Donc là j'ai fait une petite incursion dans le commerce et tout mon parcours est lié au commerce et au métier d'art en fait. Donc voilà, ce sont les deux parties de ma vie professionnelle passé. J'ai travaillé longtemps dans le commerce de mobilier. J'ai ensuite intégré une maison d'ébénisterie d'art en tant que responsable commercial. Donc j'étais en charge de tous les projets spéciaux, des liens avec l'atelier et la clientèle professionnelle des architectes d'intérieur. C'est une maison dans laquelle j'ai passé plus de 10 ans, jusqu'à la naissance de ma fille, mon deuxième enfant. Et donc à l'aube de la quarantaine, j'ai décidé de retourner en atelier après avoir passé plus de 10 ans dans le commerce d'ébénisterie d'art, de métier d'art. Donc ça correspondait à peu près à l'époque où nous souhaitions quitter Paris avec mon mari pour retrouver la vie de bord de mer, voilà, que j'avais connue pendant mon enfance et ma jeunesse. Je souhaitais vraiment pouvoir retrouver cette vie de liberté et de grand air et pouvoir offrir à mes enfants la joie de grandir au bord de la mer. Donc la question s'est posée, où et que faire ? Donc déjà, où ? Revenir à La Rochelle, c'était pas forcément l'envie de départ. C'était aussi un souhait pour nous d'explorer de nouveaux horizons. Donc nous avons prospecté de la Vendée jusqu'au Pays Basque, l'endroit où nous souhaitions vivre. Nous connaissions les Landes, bien entendu. Et nous avons choisi Vieux-Boucau. C'est un choix de cœur. Vieux-Boucau, parce que cette petite ville, ce village, présente voilà tout ce que nous recherchions, la vie dans la nature. C'est un village très nature, l'école qui permettait voilà de scolariser nos enfants, et la côte, la mer en fait, qui se trouve dans le village. Donc c'est un village magique, Vieux Boucau, qui permet de à la fois d'avoir les services, l'école, les commerces et la mer, tout à portée de pied et de vélo. Donc nous avons posé nos valises à Vieux Boucau il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, et j'ai décidé d'y monter un atelier de céramique. À Paris, lorsque j'avais du temps, j'avais pratiqué la céramique de manière loisir, en fait, en parallèle de mon activité de responsable commercial dans le domaine de l'ébénisterie, parce que ça présentait l'avantage de pouvoir être fait à la maison. Tout simplement, la céramique est une activité facile à mettre en œuvre chez soi. À Paris, on a la chance d'avoir des ateliers partagés qui permettent de cuire, qui permettent de se procurer de la matière première de manière simple. Donc j'avais un pied dans certains ateliers partagés et puis l'autre pied à la maison, donc pour ma pratique personnelle.
Vous nous parlez de pratique partagée, de pratique personnelle. Est-ce que pour autant, vous avez entrepris une démarche de formation pour aller au-delà ?
J'ai suivi des formations. Quand j'ai quitté l'entreprise d'ébénisterie d'art à la naissance de ma fille, je me suis formée de manière plus intensive. Je me suis formée en modelage, je me suis formée en tournage. J'ai passé le CAP à Paris pour pouvoir être céramiste professionnelle le jour où le déménagement le permettrait. Et c'est ce qui s'est passé à Vieux Boucau.
J'allais vous poser la question, comment ça s'apprend le métier de céramiste ? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce CAP exactement ?
Alors, la pratique loisir est très importante en amont de la formation, puisqu'elle permet d'appréhender la terre de manière simple et décomplexée, voilà, à son rythme. La matière céramiste, c'est donc, que ce soit de la porcelaine, du grès ou de la faïence, ce sont des temps de fabrication qui sont longs, des temps de séchage longs. Il faut avoir du temps devant soi, il faut pouvoir le faire tranquillement chez soi, le soir, voilà, laisser reposer pour y revenir ensuite. Donc, la pratique loisir est pour moi une approche essentielle. Ça permet d'appréhender le matériau tranquillement. Ensuite, quand on a bien exploré déjà d'une manière tranquille, je dirais, on peut envisager une formation professionnelle. Et là, ça consiste à des mois et des mois d'apprentissage quotidien, plusieurs heures par jour. Il y a des formations qui existent. Ce sont des formations professionnelles qui durent en général 10 à 12 mois. En général, c'est sur le temps d'une année scolaire. Et on ne fait que du tournage. Donc, c'est du tour pendant 6 à 8 heures par jour. On est à l'école, en fait, hein, à l'école. Et au bout, on se présente au CAP, en candidat libre. Donc, on appréhende tous les aspects techniques de la céramique autour. Mais en général, dans ces formations, il y a très peu de modelage. Ce sont des formations qui ont pour but d'être capable de fabriquer des pièces à la série et le plus rapidement possible, avec toutes les formes classiques que l'on apprend pour travailler en usine de poterie, en usine de céramique à l'ancienne, quoi. Donc, ce n'est pas une formation très épanouissante sur le plan de la créativité. C'est une vraie formation technique qui a pour but de nous rendre complètement autonomes au tournage. C'est pour ça que je dis toujours que la pratique personnelle, loisir, est essentielle, parce que c'est d'elle que va naître le processus créatif. C'est au cours de cette pratique personnelle, chez soi ou en atelier partagé, tranquillement, qu'on va apprendre à découvrir ses sources d'inspiration, les formes qui nous animent, les décors aussi, puisque c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout en formation professionnelle. On travaille un peu les maillages, mais relativement peu. Vraiment, c'est de la formation autour. Et la céramique ne réside pas uniquement dans le tournage. Elle réside dans la création, donc dans toute l'approche créative. C'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça que je conseille toujours aux personnes qui souhaitent se former d'avoir déjà une démarche personnelle importante autour de la matière terre.
On l'entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine, n'aurait qu'en plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux. Les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines, l'océan. Si ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan. Comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie, ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait, l'océan.
Vous venez d'entendre l'océan de Dominique A. C'était un petit clin d'œil à Maud, céramiste boucalaise qui s'épanouit sur la dune dans la poterie salée et qui trouve son ancrage et son inspiration au bord de l'océan, à Vieux-Boucaux plus précisément.
Les rencontres de Port d'Albret FM avec Chantal.
PortAlbretFM.fr.
On voit que vous êtes passé du bois, de l'univers du bois à l'univers de la terre. Est-ce que cet univers du bois que vous avez connu nourrit votre pratique autour de la terre aujourd'hui ?
Je n'oublie évidemment pas mon parcours dans le bois et l'ébénisterie m'a permis de me découvrir en tant que personne, réellement, puisque j'étais un petit peu enferrée dans des études intellectuelles un petit peu limitantes. La découverte de l'ébénisterie m'a permis d'exister en tant que personne créative, vraiment la personne que je suis aujourd'hui. Après, dans le bois, ce que je retiens, ce sont surtout des matières, du toucher, la rugosité ou la douceur du bois, les outils aussi, le travail de l'outil. C'est ce que je retrouve dans la poterie aujourd'hui telle que je la pratique, puisque je vais chercher des terres très chamottées, très granuleuses. Donc je suis dans la recherche de sensations autour du toucher, vraiment de manière très particulière, et c'est ce qui pour moi me relie le plus fortement à l'univers du bois. Mais par contre, ce que j'apprécie dans la poterie par rapport à l'ébénisterie, c'est de pouvoir travailler avec mes mains directement sans passer forcément par l'outillage qui demande un contrôle technique important, de la sécurité. J'ai un morceau de doigt qui est passé dans une dégauchisseuse, donc voilà. Je suis contente aujourd'hui de ne plus mettre en danger mes doigts. Après, je recherche le toucher, je recherche le grain, je recherche la rugosité dans la terre, comme je le recherchais dans le bois. C'est toujours ce que j'ai aimé, c'était la sensation du toucher. Voilà, le grain du bois, le veinage, le dessin du fil, c'est ce qui m'anime. En gros, ce sont les matières. Voilà, le travail de la matière.
Vous nous avez expliqué que dans votre parcours, vous aviez eu une formation autour du tournage plutôt destiné à la production en série. C'est une pratique que vous avez dans votre atelier, le tournage, mais pas seulement. On voit que vous êtes parti sur deux registres, le tournage et le travail de la main. Vous pouvez un petit peu développer ces deux approches et nous expliquer du coup quel type de pièces vous produisez dans votre atelier.
Alors oui, je travaille au tour, mais jamais à la série. J'ai horreur du travail en série, jamais je ne sors le Truskin, là, qui me permet très de travailler toujours de la même hauteur, je sors même rarement le réglé. Je travaille à l'intuition. Le tournage me sert beaucoup parce que je pratique, je suis présente sur les marchés, donc il me faut quand même de la matière. Donc, le tournage est un outil qui permet d'aller vite pour faire naître les formes. Mais c'est rare que je m'arrête à ça. En général, je travaille ensuite au modelage ou à la déformation toutes les pièces que j'ai tournées. Donc là, on peut voir à l'atelier des pièces qui sont brutes de tournage. Je vais ensuite les nettoyer à l'éponge très longuement pour les réhumidifier, faire ressortir le grain. Je travaille principalement des terres très chamottées, en chamotte fine ou en chamotte moyenne, même au tournage. Et donc, le but étant de faire ressortir le grain, je travaille ensuite à l'éponge. Donc, je vais réhydrater légèrement mes pièces pour les déformer. Donc, je travaille énormément à la main ensuite. Je dirais que le tournage représente peut-être le quart du travail que je porte sur une pièce. Ensuite, j'ai tout le travail de remodelage. Soit je déforme les pièces, soit je rajoute de la matière et je viens travailler en modelage sur ma base tournée. La moitié du travail. Et ensuite, il y a le travail d'émaillage qui complète mon approche. L'émaillage n'est jamais fait de manière identique sur les pièces. J'ai toujours un travail très intuitif au niveau de l'émaillage, notamment au niveau des trempages. Les pièces que je fais de même acabit, on va dire, ne seront jamais complètement identiques, même au niveau de l'émaillage. Donc, effectivement, je travaille une forme de série, mais de pièces uniques. Voilà, jamais je n'ai des pièces complètement identiques et je ne le cherche pas à le faire. C'est même un problème en cas de commande parce que c'est quelque chose qui est contre nature pour moi d'aller chercher l'identique d'une pièce à l'autre.
En même temps, c'est ce qui fait que c'est artisanal. Vous avez une gamme de couleurs qui est quand même très volontairement limitée et sobre. On va en parler, du vert, du bleu, du gris, du blanc. Évidemment, un univers qui rappelle le sable, l'océan.
Alors, j'ai trouvé ma gamme de couleurs. Alors, quand j'ai commencé la poterie, ça partait dans tous les sens. Évidemment, puisqu'en atelier partagé, on travaille avec des émaux du commerce, donc des colorants de masse qui permettent d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même plus encore. Lors de ma formation, j'ai découvert la fabrication d'émaux. La fabrication artisanale à base de matières premières et d'oxyde métallique, et ça a été une révélation. Je n'ai plus du tout envie de travailler avec les émaux du commerce et encore moins avec les colorants de masse. Je n'ai aucune attirance pour les couleurs variées. Pourtant dans la vie j'adore les couleurs, mais je vais toujours rechercher le côté naturel. Donc je vais aimer les couleurs vives apportées par les fleurs ou voilà les éléments naturellement colorés. Dans la céramique, je travaille uniquement avec des oxydes métalliques. Donc je ne vais aller chercher que les couleurs proposées par les oxydes métalliques naturels qui supportent les cuissons à 1250 degrés, donc il y en a assez peu. Et d'autre part, cela me ramène complètement à mon inspiration qui est la mer. L'univers maritime est ce qui m'anime au fond du cœur depuis toujours, l'univers de la mer. L'énergie vitale portée par l'océan. Voilà, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui m'anime profondément. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler les oxydes métalliques et la terre et la matière de base dans des tons de couleurs qui me ramènent à l'océan et à la plage. Donc je ne vais pas du tout chercher autre chose. D'autre part, pour des raisons écologiques, il y a des oxydes métalliques que je ne veux pas utiliser, comme par exemple le chrome, qui pollue le four et qui sont des oxydes métaux très polluants. Je suis concentrée sur les couleurs bleues, turquoises, blanches, qui sont des teintes qui me ramènent à la mer, que je marie avec une terre rousse, chamottée, qui me parle évidemment du sable, des dunes, de la côte, qui me parle aussi de la terre, des arbres, de l'écorce, de cette terre qu'on a ici qui est sablonneuse, qui est mélangée avec les débris végétaux, le sable, voilà, tout ce qu'on retrouve ici. Moi, dans mon jardin, j'ai pas de la terre, j'ai du sable qui se mélange avec les feuilles mortes, voilà, tous les débris organiques. Et je trouve que toute cette ambiance maritime et naturelle, c'est l'univers des Landes et c'est ce qui me plaît. Donc concernant les couleurs, effectivement, je fabrique mes propres émaux sur une base de silice et j'utilise l'étain pour faire du blanc, j'utilise le cuivre pour faire du vert et du turquoise et j'utilise le cobalt pour faire du bleu et tout ça se mélange voilà, de manière très heureuse, je trouve, pour obtenir des tons maritimes. Donc évidemment, j'ai mes petites recettes qui me permettent d'avoir des effets, mais sur une base très simple. Voilà, je suis vraiment sur une base de matières premières très très simple. J'ai 3-4 matières premières, j'utilise toujours les mêmes et j'en suis très heureuse. Et je n'ai aucune envie de me diversifier ni de multiplier les matières premières. Je les connais, je les maîtrise. Je trouve que déjà dans leur mélange, dans leur emploi, il y a 1000 sources de recherche que je suis au début. Voilà, j'ai l'impression d'être seulement au début de mes expérimentations sur cette base-là. Donc, je n'ai pas du tout envie de multiplier ni les oxydes métalliques, ni les matières premières. D'autre part, tout cela reste quand même très polluant. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on les emploie, au recyclage. Il est évident que mes eaux de nettoyage ne partent pas dans l'évier. Elles sont traitées, recyclées. Je les laisse décanter pour réutiliser ensuite le rebut pour faire de nouveaux émaux. Tout simplement, voilà, il n'y a rien qui part à la poubelle chez moi. Rien du tout.
Les cheveux dans le vent, les deux pieds dans le sable, on regarde l'océan, on regarde les vagues, la mer. Rien n'est plus puissant quand le soleil dort sur la mer. On reste devant les yeux grands ouverts. Thank you.
rencontre de Port d'Albret FM.
PortAlbretFM.fr.
C'est vrai qu'on n'envisage pas ou on n'imagine pas que le travail de la céramique puisse être polluant ou... Vous avez effectivement des éco-gestes très particuliers par rapport à votre pratique. Vous m'avez parlé de consommation électrique, effectivement, du recyclage des déchets, du souci d'avoir des eaux propres.
On n'imagine pas à quel point la pratique de la céramique peut être source de pollution. Ça m'a heurtée dans certains ateliers partagés où je pratiquais en région parisienne, de voir qu'effectivement, tout part à l'évier. C'est extrêmement choquant parce que les émaux, notamment, sont constitués d'oxyde métallique très polluant. C'est très important d'avoir une pratique rigoureuse de recyclage. On doit laisser décanter l'eau systématiquement pour n'envoyer, pour ne rejeter que de l'eau claire dans l'évier et pouvoir traiter ensuite les fonds de seau qui nous servent à faire de nouveaux émaux, tout simplement. On a même parfois de très belles surprises, hein, parce que c'est le mélange de tous nos émaux qui amène à encore autre chose. Et il faut absolument laisser décanter ces eaux, c'est extrêmement important. Je sais également qu'en station d'épuration, ils ont beaucoup de mal à traiter les eaux polluées par les métaux lourds. Donc c'est vraiment, vraiment une conscience professionnelle indispensable à tout céramiste que de recycler ces restes d'émaux et ces eaux. La terre, c'est pareil. Alors la terre n'est pas polluante parce qu'elle constitue le sol. Hein. Mais on doit aussi faire attention à ne pas boucher les canalisations. Et évidemment la consommation électrique, que notre four soit à gaz, au bois ou électrique, la cuisson à haute température occasionne de la pollution. Donc c'est très important de cuire des fours bien pleins, de faire attention à la façon dont on régule son four. Voilà, moi je sais que j'essaye de développer la monocuisson. Je trouve que la monocuisson est essentielle dans une démarche de céramiste pour une partie des pièces qui n'ont pas besoin d'être émaillées en couleur, par exemple, ou qui peuvent supporter un émail léger. Enfin, voilà, j'essaye de développer des petites pièces en monocuisson. Pour moi, c'est... Voilà, à la fois un travail d'avenir, mais c'est aussi un retour aux sources, puisqu'autrefois, les céramistes cuisaient en monocuisson. Je trouve on se doit, en tant que céramiste, d'être attaché à une démarche de réduction de notre empreinte écologique, d'une manière générale, que ce soit dans les cuissons ou dans le traitement de ces déchets.
Et on ne s'attend pas à ce type de démarche, effectivement, au niveau de cet artisanat d'art. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclaircissement. Je voudrais en venir à votre gamme de travail. Donc, il y a de la vaisselle, on peut en parler, parce que en plus, c'est une vaisselle que vous vendez à des restaurateurs locaux. On peut en parler un petit peu ?
Bien sûr. Alors, j'ai effectivement pas été vers la vaisselle de manière naturelle. Dans ma démarche de céramiste, je suis plutôt tournée vers les vases, les pièces graphiques, les pièces esthétiques, enfin de décoration, on va dire. Mais j'ai été amenée, suite à des commandes, à réaliser des tasses et notamment des assiettes. Donc les assiettes sont venues suite à la commande de Julien, restaurateur à Vieux-Boucau. C'est la table de Petit Jus, qui est un restaurant bistronomique qu'on adore en famille. On y va souvent. C'est vraiment une table très agréable, tant par l'accueil que par la qualité de ce qu'on trouve dans l'assiette. Et Julien cherchait à s'acheter, à s'offrir de belles assiettes artisanales pour présenter ses plats dans le cadre de son offre bistronomique. Et donc on a discuté, échangé. Et il a fait appel à mes services de céramiste, pour lui proposer des assiettes. Donc j'ai eu le bonheur de lui faire, de lui réaliser une vingtaine d'assiettes. Et c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour moi que de voir ces bons petits plats présentés dans mes assiettes. Voilà. Et depuis, je fais des assiettes à la commande principalement. J'ai eu des particuliers qui m'ont commandé des assiettes à plusieurs reprises. Donc là, effectivement, je commence à avoir une jolie production d'assiettes et c'est super. J'en suis ravie.
Des assiettes, des mugs, des tasses, des soucoupes, des vases, vous l'avez dit, et puis des objets décoratifs.
Alors oui, c'est vrai que je suis amenée à faire de la vaisselle parce que ça reste ce que les clients aussi recherchent sur le marché de Vieux Boucau notamment et lors de mes marchés de Noël. C'est vrai que les vases et les objets décoratifs sont peut-être moins évidents ou moins indispensables dans la vie quotidienne et j'ai plaisir aussi chez moi à utiliser de la vaisselle, donc je m'y mets aussi à la demande de mon mari qui envisage même de me passer une commande officielle pour pouvoir avoir le plaisir de manger dans de la belle vaisselle à la maison.
On va y venir aussi, les lieux d'exposition, de vente, comment on peut trouver votre travail ?
Alors, l'atelier dans lequel je pratique toute l'année, y compris l'hiver, est un atelier qui n'est pas sur rue, qui n'a pas pignon sur rue, c'est pas une boutique. Donc, effectivement, il faut m'appeler pour y passer. Après, j'ai un petit peu d'exposition tout le temps, donc il faut pas hésiter à me contacter pour venir. Mais sinon, mes lieux d'exposition publics sont le marché de Vieux Boucau, l'été, principalement juillet-août. Alors, j'essaye toujours un petit peu avant et un petit peu après, mais avec la vie familiale, c'est vrai que c'est plus réduit. Mais juillet-août, voilà, je suis au rendez-vous 3 fois par semaine, place centrale, à Vieux Boucau. On a un petit espace dans le marché, en haut du marché, dans le cœur de village, consacré aux artisans. Donc ça, la mairie a mis ça en place, c'est super, on est ravis, on est tout un groupe d'artisans à exposer au centre du village à Vieux Boucau tous les jours. Moi, j'y suis en général le jeudi matin et le samedi matin et le mercredi soir au lac. On a aussi le marché des artisans d'art au lac le long de la promenade à Vieux Boucau. Du côté des restaurants, voilà, c'est un marché qui est consacré aux artisans d'art également et qui fonctionne bien. C'est une chouette balade, on est au coucher du soleil le long du lac, on se régale, la vue est magnifique et les clients sont au rendez-vous. Donc là, je sais que cette année, ce sera également mercredi soir au lac, jeudi matin et samedi matin au marché central de Vieux Boucau. Et l'hiver, je prépare les marchés de Noël. Alors, il n'y a pas de marché de Noël à Vieux Boucau, mais je suis dans la région. Cette année, je suis à Léon et à Seignos. Je suis à Léon et à Hossegor. Voilà.
Un site, peut-être ?
Et non, pas de site internet, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de m'en occuper et je n'ai pas assez de production. Je cours après les pièces. J'ai voilà une vie de famille déjà bien remplie. Donc j'essaye de répondre à toutes les demandes qui me viennent par mail et par Instagram.
Donc on va rappeler les coordonnées, c'est important quand même.
Voilà, donc vous pouvez me trouver sur Instagram. C'est donc sur la dune -poterie-salée-vb. Mais si vous tapez sur la dune, vous allez déjà, je pense, me trouver sur la dune -poterie-salée-vieux-boucau.
Une chose importante qu'on n'a pas dit, votre signature.
C'est une encre. Ma petite signature, c'est une encre. Voilà. En fait, l'encre est mon symbole de potier, de potière, depuis toujours, depuis même avant la poterie. Dès que je fabriquais un objet avec mes mains, je signais toujours d'une petite encre. C'est mon symbole de cœur. Donc, il était naturel pour moi d'apposer cette encre sur mes pièces. Donc j'ai toujours sur chacune de mes pièces ce petit poinçon qui représente une encre marine.
Alors mode artisane, artiste ?
Artisane. Ah voilà, artisane à 100%. Parfois un peu artiste, parfois complètement artisane. Non, je ne me revendique pas comme une artiste, mais vraiment comme une artisane. Voilà, c'est le travail des mains et du cœur.
Donc on vous sent épanouie dans cette vocation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup ?
de mieux m'organiser pour plus produire et mieux développer les gammes que j'ai envie de développer. Voilà, donc mieux m'organiser pour trouver plus de temps à la production.
Eh bien, merci beaucoup Maud. Eh bien, on vous souhaite de belles ventes et de belles rencontres parce que vous êtes aussi une personne avec qui on a plaisir à échanger.
Merci beaucoup Chantal. Merci en tout cas de m'avoir accordé cette interview et je suis ravie de rencontrer les auditeurs de Port d'Albret à travers vous.
Les rencontres de Port d'Albret FM, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions avec Maud, potière sur la dune, céramiste. Une belle rencontre. On se retrouve une autre fois pour une autre rencontre de Port d'Albret FM. À bientôt.
Port d'Albret FM.fr. Une vague d'émotions.